Chapitre 25. Était-il possible qu'en rentrant, elle n'eût qu'un mot à dire à sa fille « Je n'ai rien pu, je ne peux rien pour toi » N'aurait-elle donc jamais ni énergie ni initiative? Ne serait-elle toujours qu'une résignée? Son mari voulait ce mariage et elle le laissait se faire sans rien trouver pour l'empêcher? Eh bien non, elle ne serait pas une résignée. Non, elle ne laisserait pas ce mariage s'accomplir. Comment l'empêcherait-elle? Elle n'en savait rien. Mais elle devait chercher, elle devait trouver. Elle marcha longtemps, allant droit devant elle, sans savoir où elle était, sans en prendre souci. Que lui importait? C'était sa pensée intérieure qu'elle suivait, c'était en elle qu'elle voyait. Et cependant, de temps en temps, elle s'arrêtait brusquement, se disant « Geneviève m'attend, il faut rentrer ». Allant ainsi, elle arriva, sans avoir conscience de la route parcourue et des rues par lesquelles elle avait passé, au boulevard de Clichy. Rentrerait-elle donc à Montmartre sans avoir rien trouvé? Cette pensée fut comme un coup d'éperon pour son esprit qui allait d'une idée à une autre sans avoir la force de s'arrêter à aucune, ballottée de la crainte à l'espérance. D'un bond, elle sauta par-dessus tous les obstacles qui, jusqu'à ce moment, l'avaient effrayée et paralysée. Il fallait des sacrifices pour la sauver, eh bien, on les accepterait courageusement, elle-même, Geneviève effarée. L'avenir assuré, l'avenir heureux, méritait bien qu'on le payât de quelques souffrances dans le présent. Cela dit, elle hâta le pas et, au lieu d'aller à l'aventure, elle se dirigea droit vers la place d'Ancourt. Comme elle montait son escalier, elle entendit un pas pressé derrière elle et, s'étant retournée, elle vit Faré qui montait les marches 4 à 4. « Vous venez de chez Monsieur d'Arlanzon ?» demanda-t-il d'une voix que l'anxiété, autant que l'essoufflement, rendait tremblante. « Oui. »« Eh bien, je vous dirai cela tout à l'heure. » « Mauvais alors ?»« Du mauvais et du bon. » Ils montèrent côte à côte sans parler. Assurément, Geneviève était derrière la porte, écoutant, car ils avaient à peine monté quelques marches après le 4e étage qu'elle parut sur le palier. « Est-ce fait ?» cria-t-elle. Madame de Mussidan ne répondit pas. « Tu ne dis rien, maman ?»« Je vais dire tout à l'heure. »« Monte vite !» Ce fut elle-même qui ferma la porte vivement. « Alors ? » demanda-t-elle. « Eh bien, Monsieur d'Arlanzon persiste dans son projet de mariage. » Geneviève tendit la main à Faré en même temps que celui-ci lui tendait la sienne et, longuement, ils s'étreignirent. « Veux-tu nous dire comment les choses se sont passées ?» demanda Geneviève. Sans rien omettre, Madame de Mussidan fit le récit qui lui était demandé. « Tu n'as pas dit que j'aimais Ernest ?» s'écria Geneviève. « Non. » « Et Madame de Mussidan a eu grandement raison, dit Faré, non seulement parce que c'était nous exposer à la colère de votre père, mais encore parce que le silence sur ce point était affaire de délicatesse. « J'ai pensé ainsi, dit Madame de Mussidan. « Et pour moi, je vous en remercie, dit Faré. « Alors, je n'ai plus qu'à subir Monsieur d'Arlanzon, continua Geneviève avec un geste de révolte. Puis, s'adressant brusquement à Faré, « Vous acceptez cela ? » demanda-t-elle. Avant qu'il eût répondu, Madame de Mussidan prit la parole. « Je ne l'accepte pas plus que lui. Mais pour que cela ne soit pas, nous devons tous nous imposer un cruel sacrifice. En aurez-vous la force ?»« Tout !» s'écria Geneviève. « Elle a parlé pour moi, » dit Faré. « Et pour moi aussi, » continua Madame de Mussidan. « Mais avant de s'engager, il faut savoir à quoi l'on s'engage. » « Dis, maman, pour moi, ce que tu as décidé, je le veux aussi. »« La volonté de Geneviève est la mienne, » dit Faré. « Ce qui a fait accepter par ton père ce projet de mariage, » dit Madame de Mussidan, « ça a été la conviction qu'il a acquise, je ne sais comment, que tu ne serais pas l'héritière de ta tante de corde, comme il l'avait espéré et cru jusqu'en ces derniers temps. » Et c'est là, mon enfant, ce qui doit rendre respectable pour toi le désir de ton père, qui, dans ce mariage, ne voit qu'une chose, ton avenir assuré avec une grande situation, un beau nom et une grosse fortune. Il n'y a donc, selon moi, qu'un seul moyen de le faire renoncer à ce projet, c'est de lui rendre la confiance et la certitude que mademoiselle de Puylaurens te fera son héritière. « Oh, cet héritage !» s'écria Geneviève avec exaspération. « Il a été le tourment de toute notre vie, il peut être notre salut. »« Comment cela ? » s'écrièrent-ils tous deux en même temps. « Que ton père croit que tu hériteras de ta tante, et je suis convaincue que nous n'aurons rien à craindre de M. d'Arlanzon. » « Mais c'est ma tante qui peut lui donner cette espérance, ce n'est pas nous !»« Sans doute, seulement cela ne se fera pas tout seul, et mademoiselle de Puylaurens, qui ne sait rien de ce qui se passe, n'aura pas d'elle-même l'idée de dire à ton père « Ne mariez pas votre fille au marquis d'Arlanzon, et ma fortune sera pour Geneviève. » Cette idée, il faut qu'on la lui souffle. « Je ne comprends pas, » dit Geneviève. « Et moi, j'ai peur de comprendre, » dit Faré. « Il a été convenu entre ton père et mademoiselle de Puylaurens, » continua madame de Mussidan, « que lorsque tu atteindrais ta 10e année, ta tante se chargerait de ton éducation et te prendrait avec elle. Tu te rappelles cela ?»« J'ai eu assez peur à ce moment. » »« Je suis parvenue à te garder, mais cela n'a pas été sans peine, et je n'ai réussi qu'en faisant valoir qu'au lieu de gagner la tendresse de ta tante, tu pouvais te faire prendre en aversion et par là compromettre ton héritage. » Cela a eu pour résultat d'amener une rupture complète entre ton père et ta tante. Que cela ait changé les intentions de ta tante à ton égard, je ne le crois pas, mais ton père le croit, lui. Et voilà comment, dans la crainte que tu sois sans fortune un jour, il a accepté les propositions de mariage de M. d'Arlanzon. « Vous voulez qu'elle aille auprès de mademoiselle de Puylaurens ?» s'écria Faré, incapable de se contenir. « Je te quitterai, maman !» « Je me séparerai de vous, Ernest !» s'écria Geneviève. « Je ne vois que ce moyen de résister à M. d'Arlanzon, » répondit madame de Mussidan. « Et si je le propose, vous devez comprendre que je le juge indispensable, car pour ne pas me séparer de Geneviève, pour la garder près de moi, pour l'élever, pour l'aimer, j'ai fait le sacrifice de sa fortune. » Elle se tut, et pendant assez longtemps, tous trois gardèrent le silence. Geneviève avait pris la main d'Ernest, et c'était par leurs étreintes qu'ils sentaient ce qui se passait en eux. « Si vous avez un autre moyen, dit enfin madame de Mussidan, je suis toute prête à l'accepter. Le mien est assez cruel pour que je ne tienne pas à l'employer. » « Mais ma tante voudrait-elle de moi ? » demanda Geneviève, se raccrochant à cette espérance. « Pour moi, cela ne fait pas de doute. Elle serait trop heureuse de t'avoir pour ne pas saisir avec empressement la plus légère occasion de rapprochement qu'on lui présenterait. Qu'on lui écrive ce qui se passe, et elle fera tout, j'en suis certaine, même les premiers pas au-devant de ton père, pour que tu ne deviennes pas la femme d'un homme tel que le marquis d'Arlanzon. Une fois à corde, le marquis ne te suivra pas. Il ne serait pas reçu par ta tante, d'ailleurs. » Il t'oubliera et ce mariage sera rompu. Le reste importe peu, n'est-ce pas, que tu aies ou que tu n'aies pas la fortune de ta tante. « Oh, tout à fait !» dit Geneviève. « Pour moi, dit Ernest, je désire qu'elle ne l'ait pas. » Pendant longtemps, ils discutèrent, sinon la proposition de madame de Mussidan. Ils étaient d'accord pour reconnaître quel était leur seul moyen de salut, au moins les probabilités du temps de la séparation. Puis, à la fin, ils décidèrent que Faré préparerait le modèle de la lettre que madame de Mussidan devait écrire à mademoiselle de Puylaurens et qu'il l'apporterait le lendemain.